Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur ? Qu'est-ce que le Bitcoin ? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, on rencontre Fanis Michalakis. Fanis est en études d'ingénieur et a croisé le chemin du Bitcoin il y a quelques années. Et comme Jonathan de Stacking Sats dans l'épisode 6, il a aussi eu sa petite période de blockchain bullshit qui s'est arrêtée en voyant la réalité du terrain. Fanis a produit la série YouTube « Comprendre le Lightning Network », un très très gros travail de vulgarisation en français pour expliquer le fonctionnement du réseau Lightning. Le réseau quoi ? Alors, pour comprendre de quoi on parle, il faut se rappeler que le réseau Bitcoin a une limite de transactions par seconde, et c'est un choix de conception qui a été fait pour maximiser la décentralisation du réseau. Pour mieux comprendre ces choix de conception, je t'invite à écouter l'épisode 5 où je détaille tout ça. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, le réseau Bitcoin ne peut pas supporter toutes les transactions de la planète en même temps. C'est là que le réseau Lightning joue un rôle. Il s'agit d'un réseau parallèle au réseau Bitcoin qui permet d'augmenter la quantité de transactions possibles. Dans cet épisode, on va voir avec Fanis comment ça marche, de quoi on parle, quelles sont les faiblesses du réseau et les risques associés. Alors attention, cet épisode est un peu plus technique que les autres, mais c'est ça aussi Bitcoin. C'est pas juste des mots, c'est aussi du code et de la technique. Et parfois, c'est important de se faire mal à la tête pour comprendre ce qu'on manipule. Moi-même, je fais à peine mes premiers pas avec Lightning. Donc je te souhaite une belle écoute, et si le podcast te plaît, pense à t'abonner à l'infolettre sur parlonsbitcoin.com, tu y retrouveras également les liens mentionnés dans l'épisode. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui je suis avec Fanis Michalakis. Fanis est étudiant en dernière année d'école d'ingé et a produit la série de vidéos « Comprendre le Lightning Network » sur YouTube. Bienvenue sur Parlons Bitcoin.
Bonjour Emmanuel, merci de m'avoir invité.
Ça me fait très plaisir. Peut-être pour commencer l'entretien, je peux te poser la question. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Comment t'en es venu à t'intéresser au Bitcoin ?
Oui, bien sûr. Donc mon parcours, c'est un parcours... classique école d'ingé française, donc lycée, prépa, école d'ingé. Et par rapport à Bitcoin, c'est un peu flou. Je sais que j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, et, enfin à l'époque c'était plutôt les cryptos de manière plus générale, pendant ma prépa. Donc c'était, je dirais, en 2017. Enfin donc voilà, j'étais en gros, j'ai commencé à m'y intéresser un peu avant le bullrun de 2017, mais j'étais vraiment dedans pendant le bullrun, quoi. Donc j'ai vécu le bullrun... un peu de l'extérieur, on va dire, de l'époque. Et voilà, donc je ne saurais pas dire exactement, j'ai pas comme ça le souvenir, comme certains peuvent avoir, de l'élément déclencheur, le truc qui leur a fait capter le machin. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à capter, à vrai dire. Et après, pendant longtemps, je m'en suis un peu désintéressé. Et puis, j'y suis revenu plus sérieusement pendant mon école d'ingé. Donc voilà.
Et en école d'ingé, tu sais, attends, juste avant, petite note pour l'auditeur, le bull run, c'est quand le marché a monté très fort en 2017, souvent on peut appeler ça une bulle, mais le terme qu'on utilise dans les trucs d'investissement, comme sur les marchés boursiers, on parle de bull run quand ça monte et de bear quand ça descend. Donc bull, c'est le taureau et bear, c'est l'ours. Tu as dit que tu t'es désintéressé puis que tu es revenu dessus en école d'ingé. Est-ce que quelque chose t'a fait revenir dessus? Je pense qu'il y avait une association peut-être dans ton école.
Ouais, il y avait ça. Bah après. Donc c'est à la fois récent et ça me paraît loin, mais en gros quand je suis arrivé en école d'ingé, j'étais resté un peu intéressé par ça. Et puis moi à l'époque je croyais vraiment à la blockchain, surtout voilà, pour les entreprises, les trucs comme ça, et pas tant que ça au Bitcoin, tu vois. Je pensais que le Bitcoin c'était bon, le dinosaure, le fossile et tout. Bon, je suis un peu revenu, je suis carrément aux antipodes maintenant, mais et je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, justement, c'est pas tant. Donc, tu mentionnais une association étudiante qui s'appelle Cryptosphère, et à vrai dire, je m'étais déjà réintéressé avant de tomber sur l'asso. Et ensuite, effectivement, l'association, je peux en parler un peu, ça a été voilà, l'occasion de transformer un peu l'essai. Et donc, effectivement, ouais. Donc, je m'étais déjà réintéressé à tout ça, mais donc j'avais une vision très différente de celle que j'ai aujourd'hui, qui est celle que je viens de dire, où le vrai futur, c'est la blockchain. J'étais aussi fan de Ethereum à l'époque et je considérais que Bitcoin, c'était obsolète presque. Et donc, j'avais trouvé aussi qu'il y avait cette association qui s'appelle donc Cryptosphère, qui est une asso étudiante qui était à l'époque dans trois écoles. Elle était à Kedge Business School à Marseille, elle était à Paris et à Rennes aussi. Et donc, je me suis un peu rapproché des fondateurs de cette association et j'aurais proposé de monter une nouvelle antenne à mon école d'ingé, qui est donc centrale à Marseille. Et donc ça, c'est fait. Et donc après, voilà, c'est comme ça que c'est devenu beaucoup plus sérieux pour moi. C'est au travers de cet assaut. Et c'est là aussi que le travail a un peu commencé et que mon évolution, au fur et à mesure que je m'intéressais de plus en plus près à la chose, que j'ai compris que je faisais un peu fausse route avec mon histoire de blockchain, not Bitcoin, et que c'était plutôt l'inverse qui était vrai.
Okay. Je sais que c'est une question un peu difficile, mais est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu as eu cette impression que tu faisais fausse route? Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui se disent ouais, mais justement, comme toi, la blockchain, c'est le futur, Ethereum, c'est cool, etc. Est-ce que tu as une idée des pistes qui pourraient expliquer pourquoi tu as fait ce changement-là?
Ouais, bah, il y en a plusieurs. Après, chronologiquement, je ne saurais plus vraiment bien te dire, mais bah, il y a eu quand même la confrontation d'une part avec un peu ce qui se fait dans l'entreprise. Donc, j'ai pas eu vraiment, enfin, comment dire, j'ai eu un stage où je faisais du Hyperledger Fabric. Donc, pour les auditeurs, Hyperledger, c'est une espèce de framework, donc de format, on va dire, de blockchain qui est propulsé par, entre autres, IBM et la Fondation Linux. Et le but, c'est de faire des blockchains pour l'entreprise. Pas de preuve de travail, pas de tous ces trucs qui polluent trop, comme ils disent, etc. Donc, vraiment, des choses faites pour les entreprises, avec un nombre relativement restreint de nœuds. Donc, c'est plutôt des blockchains privés, etc. Et donc, je travaillais là-dedans et je me suis vraiment rendu compte, je m'en étais déjà rendu compte un peu avant, mais là, c'était vraiment criant que l'aspect était uniquement marketing et qu'en fait, malgré tout ce que IBM pouvait vendre, et donc le fait que ça soit super bien, que ça marche très bien, etc. Ben en fait, en pratique, c'était pas très bien maintenu, ça marchait pas très bien. Il y avait plein de bugs. Au niveau du consensus, il était même pas résistant à la. Il était même pas Byzantine Fault Tolerant, donc il pouvait même pas résister aux problèmes des généraux byzantins. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui sont pas correctement décrit pour les utilisateurs extérieurs, quoi. Et donc là, j'avais déjà cet a priori avant. J'ai observé un peu ce que faisaient les grandes boîtes de conseil sur la blockchain, etc. Je me suis rendu compte que c'était coquille vide. Et là, ce stage m'a permis vraiment de réaliser que c'était vraiment coquille vide. Voilà. En gros, donc tout ce qui est... Et puis surtout, un autre truc, c'est tout ce qui est blockchain pour traçabilité, mais où tout est fermé. Enfin, il faut voir que ça résout pas plein de problèmes qui sont l'acquisition des données initiales. Enfin, voilà, c'est un peu un buzzword. Et à l'inverse, Bitcoin, pour le coup, il y a d'une part Bitcoin, le réseau, qui est quelque chose d'absolument incroyable avec le nombre de nœuds stratosphériques qu'on connaît, la gestion du consensus au sein du réseau. Puis il y a Bitcoin, la monnaie. Donc, enfin, il y a une proposition de valeur qui est double, voire triple, et qui est beaucoup plus intéressante. Et donc je pense que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'elles faisaient fausse route en préférant des blockchains privées à la IBM, et sont aujourd'hui en train de se rendre compte que, ben, comme Internet, on a plutôt intérêt à avoir quelque chose d'ouvert, et sur lequel on peut vraiment communiquer avec d'autres entreprises. Et une autre chose que j'aime beaucoup dire, c'est que la véritable utilité d'une blockchain, c'est quand on doit gérer des relations conflictuelles, au sens où... On peut faire affaire avec quelqu'un en étant quand même persuadé que cette personne est un ennemi et que dès qu'elle en aura l'occasion, elle va essayer de tricher. Et donc ça, c'est toute la force de Bitcoin. Donc c'est ce qu'on dit, ce qu'on veut dire, notamment quand on dit que Bitcoin is for enemies, donc Bitcoin c'est pour les ennemis. Et en fait, dans le cadre professionnel, quand deux entreprises font affaire, et ben tout ça est déjà géré par les contrats. Et a priori, si elles pensent que l'autre va essayer de les enfumer, elles font pas affaire tout simplement déjà de base. Et ensuite, c'est un peu long quand même ma réponse, mais il y a une autre problématique qui est plus évidente pour les gens qui ont déjà eu à gérer des systèmes informatiques dans des entreprises, qui est que c'est extrêmement complexe de faire en sorte que des entreprises se rallient sur une architecture commune si cette architecture commune, elle n'est pas plus ouverte. Donc c'est pour ça que des entreprises peuvent éventuellement tirer parti de Bitcoin pour gérer des trucs entre elles, mais par contre, tirer parti d'une infrastructure à la Hyperledger Fabric, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on voit en général, c'est qu'elles sont super contentes à l'idée de faire une blockchain parce que ça sonne bien. Mais dès que tu poses la question de savoir bon ben comment on fait, il faudrait que tout le monde puisse avoir son propre nœud dans son data center et tout. Ben là, tout de suite, il n'y a plus personne parce que personne veut les côtés un peu chiants, donc avoir son nœud, etc.
Ok, c'est excellent, c'est cool. Donc c'est un peu cette vision pratique que tu as eue dans ton stage où tu t'es rendu compte que les blockchains privées, c'est un peu comme des jardins fermés. Donc ça en fait, ça fait des obstacles à l'intégration entre les compagnies. C'était un mot plus marketing, un peu une espèce de coquille vide. Et puis que finalement, le problème qui est répondu, il est déjà répondu par le contrat légal que les entreprises passent entre elles. Donc finalement, l'idée même d'avoir une blockchain ne sert pas en tant que telle, puisque les contrats protègent les entreprises de base. Et puis des entreprises qui font du commerce, a priori, ne sont pas ennemies. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que maintenant, donc après ce stage, tu as vu un petit peu ce que c'est le blockchain, tu t'es un peu détourné de ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant, en fait? Est-ce que tu peux nous parler du projet que tu as démarré, donc comprendre le Lightning Network, avant de nous expliquer ce que c'est?
Oui, bien sûr. Donc maintenant, bah, ça va faire quand même à la louche un an ou deux que je suis beaucoup plus, un an et demi, on va dire, comme ça, que je suis beaucoup plus axé Bitcoin. Donc je me définirais pas forcément comme Bitcoin maximaliste. Je trouve ça un poil réducteur parfois, mais donc voilà, Bitcoin centré en tout cas. Bitcoin minimaliste peut-être, c'est-à-dire que je considère vraiment que Bitcoin est la véritable innovation, que s'il y en a un qui doit réussir, c'est lui. Et ça ne me dérange pas par contre que d'autres tentent des trucs à côté, s'ils ont envie. Et donc, au sein de Cryptosphère, en gros, on est un peu différent. Il y a de tout, si tu veux. C'est aussi l'une des forces de cet asso, c'est qu'il y a pas mal de gens. Et du coup, il y a des gens qui sont toujours très blockchain enthousiastes et tout. Et donc, on a des discussions à ce sujet. Mais moi, je faisais plutôt partie des, entre guillemets, du coup, Bitcoin maximaliste au sein de l'asso. Et donc, on travaillait plutôt, nous, sur Bitcoin, donc avec quelques collègues. Et notamment, on a eu l'idée de lancer notre nœud Lightning. Donc un nœud de routage Lightning avec des fonds de l'association. Et l'idée, c'était d'expérimenter là-dessus. Et maintenant, je suis plus trop dans l'asso, mais j'ai quand même gardé cette passion pour la vulgarisation et le fait de transmettre sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer voilà, un format éducatif sur Lightning. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si tes auditeurs sont très à l'aise avec ce qu'est Lightning exactement, mais voilà, j'ai eu l'idée de. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de contenu francophone sur le sujet, vraiment explicatif, qui explique le fonctionnement plutôt que les fonctionnalités, ce qui sont deux choses différentes. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, je vais me lancer et ça a donné ça.
Cool, c'est super. Bah, je pense que les auditeurs ne savent pas du tout ce que c'est Lightning. Donc là, ils savent qu'il y a du contenu disponible pour se renseigner. Mais peut-être que tu peux commencer par nous expliquer, OK, Lightning, c'est quelque chose. Mais avant ça, c'est quoi le problème que ça adresse? Peut-être ça va peut-être aider à comprendre pourquoi cette chose existe. Et puis, ça va donner plus de contexte au Lightning.
Oui, bien sûr. Donc, tout simplement, le problème que cherche à résoudre Lightning, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, c'est le passage à l'échelle. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur la blockchain Bitcoin, donc, les blocs, ils ont une taille limitée à 1 mégaoctet. Et ça conditionne le nombre de transactions qu'on peut mettre dans un bloc, puisqu'une transaction, elle pèse un certain volume de données. Et donc, comme il y a un bloc en moyenne toutes les 10 minutes, cette contrainte de 1 mégaoctet par bloc, elle entraîne une contrainte sur le nombre de transactions par seconde. Et quand il y a beaucoup de gens qui veulent faire des transactions, ben, les transactions s'accumulent dans la file d'attente, qu'on appelle le mempool, et ça commence à faire des gros bouchons, quoi. Donc on peut attendre parfois des jours, voire des semaines pour avoir sa transaction validée, surtout si on n'a pas associé des frais de transaction suffisamment élevés. Et c'est ce qu'on est en train de voir un peu d'ailleurs en ce moment avec un mempool qui est vers les 600 mégaoctets là. Et donc le but de Lightning, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de faire toutes les transactions directement sur Bitcoin. On va essayer d'en enlever certaines et de les faire ailleurs. Et on va faire plein de transactions pas sur Bitcoin. Et à la fin, on va juste enregistrer un état comptable, donc une espèce de résumé de toutes ces transactions qu'on aura fait ailleurs sur Bitcoin pour finaliser ces transactions-là. Donc c'est ça que fait Lightning en surcouche, donc au-dessus de Bitcoin.
Donc si je reprends ça, ce serait un peu comme, mettons, tu fais un repas avec des amis, et puis, pendant plusieurs semaines, vous partez en camping, les amis, bah, vous pourriez ouvrir un tri-count où vous tiendrez l'état des comptes. Et c'est seulement à la fin du camping que vous allez vous faire un virement bancaire des uns vers les autres. Donc Lightning, ce serait un petit peu ça. C'est pour éviter de se faire des virements bancaires chaque fois qu'on fait un achat pendant le camping, on va juste se tenir la liste entre nous. Et puis à la fin, on va aller sur vraiment les comptes plus tard, c'est ça?
C'est exactement ça. Bah, Tricount, c'est une très bonne analogie que j'utilise parfois aussi. Donc, faut juste que les gens connaissent Tricount, c'est ça en général.
J'avoue.
Mais c'est exactement ça, voilà. Ou sinon, il y a une analogie de la colocation que j'utilise, mais c'est vraiment la même idée. C'est que voilà, on note sur un bout de papier combien chacun doit à l'autre, et seulement à la fin du mois, on se fait un virement, un seul virement, qui permet de solder les dettes de l'un et que l'autre récupère l'argent qu'on lui doit.
Ok. Et comment ça marche? Donc, si on était en coloc, on pourrait noter sur un bout de papier sur le frigo. Puis ça marcherait bien parce qu'on pourrait le voir. Puis bon, je te fais confiance. Mais comment ça marche avec plutôt Lightning où là, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de papier. Comment je peux faire ce système-là?
Ouais. Du coup, ce qui se passe sur Lightning, c'est que donc en fait, il y aurait d'autres possibilités, mais actuellement, donc ce qu'on appelle un canal sur Lightning, c'est une espèce de smart contract, entre guillemets, si on veut utiliser ce terme absolument, entre deux utilisateurs. Et donc, il y a un des utilisateurs qui va déposer des fonds sur une adresse multisignature. Donc, une adresse multisignature, ça veut dire qu'il faut que les deux soient d'accord pour dépenser les fonds qu'il y a dessus. Et c'est ce qui va ouvrir le canal sur Lightning. Et une fois que le canal est ouvert, donc, on peut faire des transactions sur ce canal. Et donc à ce moment-là, sur la blockchain Bitcoin, il n'y a plus rien qui bouge. L'argent est déposé sur l'adresse multisignature Bitcoin et ensuite on passe sur Lightning. Et à ce moment-là, eh ben, on peut s'envoyer de l'argent autant de fois qu'on veut sur ce canal dans les deux sens. Et finalement, il n'y a que les deux parties prenantes du canal qui sont au courant. Et à la fin, éventuellement, si on veut fermer le canal, eh ben, on fait juste une transaction sur Bitcoin qui va dépenser les fonds depuis l'adresse multisignature et les envoyer. Une partie à Alice et une partie à, j'appelle Alice et Bob à chaque fois les parties prenantes, mais donc une partie à la première personne et une partie à la deuxième, en fonction de combien chacun avait de son côté du canal au moment où il a été fermé. Et après, il y a plein de mécanismes qui permettent de faire en sorte qu'on se protège si l'autre essaye de tricher. Donc c'est ce qui tient un peu, qui fait un peu office de frigo dans notre cas, quoi. C'est des mécanismes de protection au sein du protocole Lightning, pour être sûr que personne n'essaye de voler des fonds.
Ok, donc si on voulait remettre ça dans une analogie avec le monde réel, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait comme si, à la place de prendre un papier qui serait sur son frigo, tu aurais comme une espèce de, je sais pas, une boîte où on met tous les deux 10 euros, et puis après on peut venir appuyer un peu plus pour remonter mon solde, parce que toi tu me devais 2 euros, et moins de l'autre côté, donc on pourrait dire, on a mis 2 euros au début, il y a 20 euros, et puis pendant la semaine, à un moment j'ai 18 euros, puis toi, t'en as deux, puis après, en fait, t'en as 16, en fonction des courses qu'on fait. Et à la fin, on est capable d'ouvrir la boîte et on récupère chacun. Toi, tu peux récupérer que ta part, donc les, mettons, 6 euros qui te resteraient. Moi, je pourrais récupérer que les 14 euros. Est-ce que ce serait un petit peu quelque chose comme ça?
Ouais, c'est à peu près quelque chose comme ça. La seule différence avec ton analogie, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas faire... Enfin, aujourd'hui, actuellement, il n'y a qu'une seule des deux parties prenantes qui dépose l'argent. Donc dans l'occurrence, ça serait par exemple toi qui mets les 20 euros et moi je mets rien. alors plutôt qu'on mette 10 chacun, mais sinon c'est exactement ça. C'est vraiment ça l'idée, ouais.
Et alors si justement il n'y a que toi qui mets 20 euros, en quoi c'est intéressant pour toi de mettre justement ces 20 euros peut-être que toi tu voudrais recevoir de l'argent de ma part, donc ça veut dire qu'il n'y a que celui qui crée le canal, il n'y a que celui qui met les 20 euros qui est capable d'envoyer de l'argent?
Ouais, dans un premier temps, et c'est l'une des contraintes qui est souvent un peu mal comprise par les personnes qui approchent Lightning pour la première fois, c'est que si moi j'ouvre le canal, donc je dépose 20 euros, et que c'est tout ce que je fais, donc j'ai un seul canal avec 20 euros de mon côté, je ne peux pas recevoir de paiement. Et donc pour pouvoir recevoir un premier paiement, il faut soit que quelqu'un d'autre ouvre un canal avec moi, mais que ce soit lui qui dépose, soit que j'en fasse un paiement avant. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai plus 20 euros de mon côté. Par exemple, si je suis un paiement de 10 euros, j'en ai plus que 10. Et je peux, du coup, recevoir 10 euros. Mais, comment dire, c'est une contrainte qui pourrait être levée. Enfin, le fait de pouvoir déposer à deux, c'est quelque chose qui est... je ne sais pas exactement à quel état d'avancement, mais qui est à l'étude, quoi, parce que c'est effectivement un fonctionnement qui paraît plus intuitif et qu'on aimerait bien avoir. Mais actuellement, effectivement, si tu ouvres juste un canal, tu ne peux pas recevoir de paiement immédiatement.
Donc, comment ça marcherait en pratique pour que je reçoive? Ça veut dire que si je veux recevoir des paiements, mettons, sur mon téléphone et que je suis avec toi, il faudrait que je t'envoie d'abord 10 euros.
Ouais, en l'occurrence. Après, il y a comment dire, donc ça serait une méthode, mais c'est pas ouf parce que, enfin, tu vois bien que on n'aime pas envoyer 10 euros à quelqu'un alors qu'on lui doit rien juste pour pouvoir qu'il nous paye après lui en retour. Donc l'autre solution, c'est que ben tu me demandes d'ouvrir un canal moi, donc un marchand par exemple qui veut recevoir des paiements. Il peut demander à la personne qui paye d'ouvrir un canal vers lui. Et à ce moment-là, du coup, la personne qui paye peut payer. Souvent, les marchands, ils sont déjà connectés en fait avec d'autres canaux qu'on peut utiliser pour arriver jusqu'à eux. Et après, il y a aussi des moyens, des services qui proposent d'ouvrir un canal vers toi. Donc, parfois, c'est avec une petite commission. Et enfin, donc, ils prélèvent, voilà, je sais pas moi, 0,1% du montant total qu'ils mettent sur le canal, ils le prennent en commission. En échange du service qui est l'ouverture d'un canal vers toi. C'est notre possibilité.
Ok. Donc on voit bien deux systèmes différents. C'est le premier, le marchand qui dit donne-moi 10 euros. Donc là, c'est normal que toi, tu mettes 10 euros vers le marchand. Et l'autre système où quelqu'un t'offre la possibilité de recevoir des bitcoins, mais avec un certain petit coût.
C'est ça, voilà. Après, enfin, comment dire? Pour un marchand, les deux sont possibles. En général, il peut éventuellement faire les deux options. Souvent, ce que les marchands disent, c'est en fait, enfin, il faut vraiment voir que Lightning, c'est un réseau, et donc on va pouvoir utiliser les canaux de paiement d'autres personnes. Et souvent, les marchands ont déjà des canaux avec d'autres nœuds sur le réseau. Et donc, si toi tu arrives et que tu veux payer ce marchand, en général, tu vas pouvoir envoyer ton paiement pour passer par d'autres canaux et arriver jusqu'au marchand. Et le marchand parfois dit, ben, si vous voulez me soutenir, vous pouvez ouvrir un canal vers moi parce que ça me permet de recevoir plus facilement des paiements. Donc il y a ça aussi, il y a le côté un peu altruiste, qui est que ben, si tu vois une boutique que tu adores, eh ben, tu peux avoir envie d'ouvrir un canal vers eux, parce que tu sais que comme ça peut les aider à recevoir des paiements qui éventuellement passeront du coup par ton canal. Des paiements d'autres personnes.
Ok, attends. Donc si on juste pour discuter, on est passé rapidement de on a un canal entre nous deux avec 10 euros chaque, un canal avec le marchand, je mets 10 euros pour pouvoir les envoyer. Et après, tu as dit Lightning c'est un réseau, donc on peut utiliser d'autres canaux. Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu plus comment le fait que nous on a un canal entre nous et puis que moi j'ouvre un canal avec le marchand, comment c'est possible que ces canaux se connectent les uns avec les autres? Puisqu'a priori, initialement tu pourrais dire bah, en fait c'est par rapport, quoi.
Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut voir, par défaut, donc en gros, quand on ouvre un canal, par défaut, on va l'annoncer au reste du réseau Lightning. Donc, on va dire au reste du réseau Lightning, il y a un canal entre ce nœud-là et ce nœud-là avec telle capacité. Donc, ce qu'on appelle la capacité, c'est combien il y a de Bitcoin sur ce canal. Et donc, le réseau, du coup, il est au courant que ce canal existe. Et on peut envoyer des paiements qui vont être. Alors, on peut dire qu'ils sont répercutés de canal en canal. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les canaux sont étanches. C'est-à-dire que de l'argent qui est dans un canal, il ne peut pas sortir de ce canal. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est. Mettons un exemple à deux canaux. C'est-à-dire que tu veux envoyer. Mettons que tu sois connecté à moi et que moi, je suis connecté au marchand. Et tu veux payer le marchand, toi. Et tu n'as pas du coup de canal directement avec le marchand. Et donc, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer 10 euros à moi sur notre canal qu'on a en commun. Et moi, j'envoie 10 euros au marchand sur le canal que j'ai avec le marchand. Ce qui fait que eh bien, les 10 euros que tu m'as envoyés dans notre canal, ils n'ont pas quitté notre canal, ils sont toujours dedans, mais ils ont changé de côté. Et moi, les 10 euros que j'envoie au marchand, ils sont toujours dans le canal que j'ai avec le marchand, mais ils ne sont plus de mon côté, ils sont du côté du marchand. Et de la sorte, effectivement, toi, tu as envoyé 10 euros et le marchand, il a bien reçu 10 euros. Donc, à ce titre-là, finalement, si on regarde du point de vue un peu macroscopique, tu as bien envoyé 10 euros au marchand. Et donc,
Est-ce
c'est
que dans
comme
ce
ça que les
cas-là,
paiements passent.
pardon. Ok. Est-ce que dans ce cas-là, comme donc moi je t'envoie 10 euros, toi t'envoies 10 euros dans marchand, dans ton canal, ça veut dire que dans ton canal avec le marchand, tu peux plus lui envoyer 10 euros désormais.
Bah, si du coup, j'avais que 10 euros de mon côté, effectivement, maintenant, moi, de mon côté, j'ai plus rien. Donc, je suis à sec et donc, je peux plus envoyer d'argent au marchand. Ça, ouais. Bêtement.
Ok. Donc est-ce que dans ce scénario, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vas relayer mes 10 euros en sachant que toi tu pourras plus payer ou est-ce que tu vas simplement refuser pour pas que tu te retrouves à sec quand tu veux acheter ton pain.
Ok, ça c'est une bonne question aussi, ça dépend vachement. Donc je viens de dire que, enfin j'ai dit il y a quelques minutes que les canaux quand on les crée ils étaient enfin, on avertissait le reste du réseau qu'on l'avait créé, le canal. Et en fait, c'est pas obligatoire. Donc, c'est ce qui est fait par défaut actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle des canaux publics. Mais c'est aussi possible d'avoir des canaux qu'on appelle privés. Donc, le titre est un peu trompeur. Il n'est pas si privé que ça. C'est juste qu'il n'est pas annoncé. Donc, en gros, plutôt que de dire à tout le monde que tu as créé un canal, tu ne le dis pas. Et ça, c'est utile, notamment pour les personnes qui veulent vraiment utiliser le canal pour leur usage personnel. Donc, par exemple, pour payer justement ce marchand, pour acheter leur baguette tous les jours. Elles n'ont pas envie, justement, effectivement, comme tu le soulignes, qu'il soit utilisé par d'autres personnes parce que ça dégrade leur possibilité à elles de l'utiliser pour leurs propres besoins. Et donc, à ce moment-là, elles vont le mettre en... enfin, elles vont pas l'annoncer. Donc, ça sera un canal qu'on appelle privé. Et du coup, comme le réseau n'est pas au courant qu'il existe, eh ben, il n'y a que elles qui vont pouvoir l'emprunter, sauf si elles avertissent éventuellement d'autres personnes de son existence. Et un autre moyen de faire ça, éventuellement, si tu veux garder ton canal public, mais que tu veux pas trop qu'il soit utilisé, eh bien, tu peux régler les frais que doivent payer les gens pour utiliser ton canal. Parce que quand quelqu'un passe par ton canal, il doit te payer des frais, des commissions. Et si tu veux que personne l'utilise, tu peux aussi le garder public, mais mettre des frais tellement élevés que finalement, les gens préféreront passer par ailleurs.
Ou au contraire, mettre des frais intermédiaires, tu te dis, je suis d'accord qu'on utilise, je suis d'accord de plus avoir d'argent avec le marchand, mais bon, j'aurais gagné 50 centimes, donc ça me fait ma baguette peut-être, ou je sais pas, une
Exactement.
chocolatine, quoi. Donc tu pourrais ajuster ton usage de canal, c'est toi qui serais aux commandes de ça.
Exactement. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Ça permet vraiment de, suivant ta préférence subjective personnelle, tu peux vraiment très finement régler l'utilisation, enfin les frais de ton canal. Si tu estimes que finalement être payé 50 centimes, comme tu as dit, pour l'utilisation du canal, ça rembourse l'inconvénient qui est que tu peux plus l'utiliser toi, ben voilà, tu peux le faire.
Ok, donc c'est un peu comme si on pouvait créer une espèce d'équilibre entre l'inconvénience, le frais que je te paye. Donc on pourrait imaginer que le niveau de confort de chacun des usagers soit proportionnel finalement à ce qu'il est acceptable pour lui, quoi. Donc finalement, ça pourrait avoir un réseau où les nœuds font ce qu'ils sont d'accord de faire les uns que les autres. Donc il y a une forme de consensus qui apparaît sur la façon dont les canaux vont faire circuler les bitcoins dans le réseau.
Oui, si on veut. Je ne suis pas sûr que le terme consensus soit particulièrement adapté. Ouais, mais effectivement, chacun peut, suivant les usages qu'il veut faire de son nœud et de ses canaux Lightning, voilà, adapter les frais. Et puis, on ne l'a pas précisé, mais il peut les adapter à tout moment. C'est-à-dire que les frais ne sont pas fixés dans le temps. Sur un canal, tu peux changer tes frais toutes les minutes, enfin, si tu veux, enfin, quand tu veux, quoi. Et donc, du coup, si à un moment donné... tu sais que dans le mois, tu vas vouloir utiliser ce canal pour toi, tu peux augmenter les frais pour être sûr qu'il n'y a que toi qui l'utilises. Et si après, ben, le mois d'après, t'en as plus besoin, mais qu'il est toujours là et que tu vas pas le fermer, ben, tu peux baisser les frais pour qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent. Et comme ça te fait, un petit rendement, passif éventuellement.
Ok. Tu as parlé de fermer le canal. C'est quoi le mécanisme qui va nous faire quitter le réseau Lightning?
Ouais. Du coup, comme je l'ai dit, quand tu ouvres un canal, ce qui se passe, c'est qu'on fait une transaction sur Bitcoin pour envoyer les fonds depuis une adresse normale vers une adresse multisignature. Donc multisignature, je le répète, c'est-à-dire qu'en gros, pour dépenser les fonds du canal, il faut que les deux personnes du canal soient d'accord. Et donc, pour fermer le canal, la manière correcte, on va dire, de le faire, c'est de prévenir déjà son partenaire de l'envie qu'on a de fermer le canal. Et donc quand je dis le prévenir, c'est sur Lightning. En gros, il y a un protocole de communication pair à pair sur Lightning. Donc finalement, c'est les nœuds qui discutent entre eux. Et donc tu lui envoies un message pour lui dire que tu veux fermer le canal. Et en général, bon, l'autre, il est d'accord, hein. Enfin, il n'a pas trop d'intérêt à refuser. Et donc les deux nœuds vont aller regarder un peu quels sont les frais sur la blockchain Bitcoin au moment de la fermeture. Donc les frais de transaction, et puis ils vont construire une transaction pour fermer le canal. Et donc cette transaction, elle prend les fonds qui sont déposés sur l'adresse multisignature du canal, et elle en envoie une partie sur la personne A et une partie sur l'adresse de la personne B. Et donc forcément, si mettons qu'on a un canal et qu'il y a 15 euros de mon côté et 5 euros du tien, cette transaction, elle va envoyer 15 euros à moi sur mon adresse Bitcoin et 5 euros à toi sur ton adresse Bitcoin. Et donc l'idée, c'est comme une espèce de... Enfin, c'est assez comptable, si tu veux. On a fait plein de transactions sur notre canal, et sur Bitcoin, on fait une transaction qui solde le compte en envoyant à la fin de l'exercice comptable chacun combien il avait de son côté du canal, et ça lui envoie sur Bitcoin.
Okay. Ça, c'est un peu ce qu'on avait dit tantôt. C'est si on avait une boîte magique avec 20 euros au début, à la fin, on casse la boîte, puis la boîte ne permet que de récupérer ce qui était ce sur quoi on s'était mis d'accord dans la boîte, quoi.
C'est ça, ouais.
Tu avais dit que la personne à qui tu demandes de changer de canal, elle n'a pas trop d'intérêt à le faire. Mais imaginons, elle n'a pas envie de le faire, justement. Mettons, toi, je te dois 18 euros. Je suis là, ouais, en fait, j'ai pas envie de fermer le canal. Je veux pas que tu t'aies 18 euros. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
À ce moment-là, du coup, la personne, si elle veut vraiment fermer le canal, elle peut faire ce qu'on appelle une fermeture forcée. Et donc à ce moment-là, vous n'allez pas construire, on va pas construire la transaction pour fermer le canal ensemble. Elle va juste publier ce qu'on appelle une transaction d'engagement. Donc là, on touche à de la technique, enfin, un peu plus complexe, mais elle va publier le dernier état du canal, en gros. Et donc en gros, ça ressemble vachement à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'elle publie vraiment une transaction qui ressemble beaucoup à celle dont on a parlé. Mais la différence, c'est que cette transaction, elle a des frais beaucoup plus élevés. Alors pourquoi? C'est parce que elle a été construite à un moment donné dans le passé où l'état du réseau Bitcoin était peut-être assez différent de celui où on veut fermer le canal. Et donc, ce que font les logiciels Lightning, c'est que pour être sûr que la transaction aura suffisamment de frais, ils les gonflent beaucoup, ils font un x5, par exemple, sur les frais de transaction. Et donc, on peut se retrouver à payer des frais 5 fois plus élevés que nécessaire. Mais en fait, si ça se trouve, ça peut aussi être pas assez élevé si vraiment les besoins de frais sur le réseau Bitcoin ont beaucoup augmenté. Mais en tout cas, on contrôle pas bien les frais. Et en plus, il y a des espèces de, il y a des scripts qui bloquent les fonds pendant un certain temps. Donc c'est à pas mal d'égards, c'est plus contraignant. Et voilà. Et en plus, c'est pas forcément du coup bon pour. Ça dépend un peu de qui a ouvert le canal, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la personne qui doit apporter les frais pour la transaction de fermeture du canal, c'est celle qui a ouvert le canal. Donc imaginons que c'est toi qui as ouvert le canal, et maintenant c'est moi qui veux le fermer. Là, franchement, tu as vraiment intérêt à coopérer parce que de toute façon, moi, je vais le fermer quoi qu'il en soit. Et donc, si tu veux pas le faire de manière coopérative, où on contrôle bien les frais, ben, je vais le faire de manière forcée. Et à ce moment-là, on ne contrôle pas les frais. Et c'est toi qui les payes, donc c'est ballot pour toi. Dans l'autre sens, si c'est moi qui ai ouvert le canal et que je veux faire une fermeture, là, tu as quand même, comment dire, tu es moins incité à forcément être d'accord si tu veux, si toi, tu veux pas le fermer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour le coup, si tu veux pas le fermer, moi, je peux en pratique. Sans aller jusqu'à la fermeture forcée, je peux le rendre inutilisable pour toi en augmentant mes frais sur le canal de mon côté. Et donc à ce moment-là, ça te coûterait super cher d'envoyer de l'argent, enfin, ou d'en recevoir en l'occurrence par mois. Donc c'est comment dire? Là, on touche peut-être plus à des incentives et un peu de la théorie des jeux, mais en pratique, les partenaires sur un canal, ils ont tout intérêt à pas insister pour refuser de fermer un canal quand l'autre demande. Parce que l'autre a un pouvoir de nuisance qui est suffisant pour rendre ce canal vraiment super compliqué à utiliser, quoi.
Ok. Donc vraiment le résumé, ce serait dans tous les cas, ils sont incités fortement à fermer de manière collaborative et d'avoir les frais les plus bas.
C'est ça, exactement. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que même si l'autre veut pas fermer quand tu lui demandes de fermer de manière coopérative, tu as toujours la possibilité de faire une fermeture forcée. Donc tu en fait tu as quand même un contrôle sur tes fonds, quoi. Ils sont pas bloqués. Et c'est important parce que là, on dit que l'autre ne veut pas, mais ça peut aussi être juste que l'autre, bah, je sais pas, moi, il a plus d'électricité et donc il peut pas te répondre. Ça peut vraiment être aussi bête que ça. Et donc à ce moment-là, il faut que toi, tu puisses récupérer tes fonds sans sa participation à lui.
Ok, donc est-ce que ça veut dire en quelque sorte que quand tu quittes le réseau Bitcoin pour entrer dans le réseau Lightning avec cette transaction couplée, tu restes en contrôle de tes Bitcoins parce que quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir revenir sur le réseau Bitcoin, peut-être avec des frais plus élevés si ça se passe mal, mais si ça te passe bien, tu pourras de toute façon revenir de manière plus facile, quoi. Il y a
C'est
peu de
exactement ça, ouais.
risques de perte, c'est un peu ça?
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, la sécurisation des fonds sur Lightning, elle est réalisée par des transactions Bitcoin qu'on ne publie pas, mais qu'on pourrait publier à tout instant si on en a besoin. Et donc, c'est en gros, c'est des espèces de. C'est une sorte d'assurance, d'engagement qu'on prend vis-à-vis de l'autre partie prenante dans le canal, et qui dit en gros que ben voilà, à tout instant, moi, je peux publier l'état actuel du canal sur Bitcoin et récupérer ce qui me revient de droit, donc c'est-à-dire ce qui est de mon côté du canal à l'instant T. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas besoin de faire confiance à l'autre pour ouvrir un canal avec lui.
Ok. Si on prenait l'exemple de la boîte magique avec 20 euros, ça veut dire que à chaque fois qu'on change l'état de la boîte, donc si on fait un petit transfert entre nous, à chaque fois il est possible de casser la boîte et puis de répartir l'argent à chaque étape
Ouais.
qu'on a fait. Donc si ça se fait au fur et à mesure, donc je suis toujours capable de dire non, mais en fait là je vais récupérer mes bitcoins, je casse la boîte, on retourne sur les réseaux, je récupère mes bitcoins.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que y a des. Donc ça veut dire que tous les bitcoins qui sont sur Lightning viennent du réseau Bitcoin originel. Donc sur Lightning, on ne pourrait pas avoir non plus de 21 millions de bitcoins.
Non, exactement ça. On l'a entendu dire il n'y a pas si longtemps dans un podcast qu'on pouvait créer des bitcoins sur Lightning. Alors évidemment, c'est faux. Non, tous les bitcoins qui sont sur Lightning, ils ont été déposés sur des transactions multisignatures, enfin des adresses multisignatures sur Bitcoin. Et donc c'est au maximum, on aura 21 millions de bitcoins si Satoshi revient et envoie son million de bitcoins sur Lightning. Donc ouais, complètement. Il n'y a pas de
Ça veut dire
création
si.
monétaire.
Ok, pas de création monétaire, ça veut dire que quand moi je vais recevoir des fonds Lightning, est-ce que ça veut dire que j'ai une vision sur le contrat qui a fait que les bitcoins que je reçois sont arrivés sur Lightning? Est-ce que je peux savoir moi que ce que je reçois a été effectivement partie de Bitcoin?
Ouais, enfin, si tu veux, ouais, si tu reçois de l'argent, tu peux. Donc, si tu reçois des bitcoins sur Lightning sur un canal donné, tu peux retrouver la transaction bitcoin qui a créé ce canal et voir effectivement combien il y a de bitcoin sur cette adresse multisignature et donc sur ce canal par extension. Oui, complètement. C'est fait d'ailleurs de. Les identifiants des canaux, par exemple, sont faits de telle manière qu'à partir de l'identifiant du canal, tu peux retrouver la transaction Bitcoin qui l'a permis de l'ouvrir. Donc c'est justement fait exprès pour que, voilà, complètement. En fait, c'est même comme ça que c'est construit, quoi. Si tu veux, c'est à partir de l'identifiant de transaction Bitcoin, on définit l'identifiant du canal Lightning. Et c'est indissociable, quoi. C'est vraiment. Tu peux pas avoir de canal Lightning sans la transaction d'ouverture associée.
Ok, cool, bah, c'est bien, je savais pas, donc je suis content de l'apprendre. Donc là, ça a l'air vachement bien, donc tu peux ouvrir des canaux. On voit qu'il y a quelques petites barrières à l'ouverture, donc est-ce que c'est moi qui l'ouvre, est-ce que c'est l'autre qui l'ouvre, est-ce que je me ferais plus élevé pour pas qu'on vide mon canal? Donc il y a des petites difficultés d'usage éventuellement qu'on peut imaginer se faciliter avec le temps. Est-ce que tu vois des facteurs qui pourraient mettre en péril le réseau? Quelles sont les sources de fragilité dans ce système?
Ah oui, il y en a plein. D'ailleurs, on m'a accusé un peu de trop, notamment dans ma petite série de vidéos là, de trop insister, enfin de pas assez insister justement sur les risques, enfin les problèmes qu'il y a. Donc, je vais le faire maintenant. Effectivement, Lightning a des défauts quand même qui sont pas du tout indépassables. Ça, pour le coup, je le maintiens. C'est pas, on peut y arriver quoi. Mais il faut bien en avoir conscience, pardon. Donc l'un des problèmes notamment c'est le calcul de route sur le réseau Lightning. Donc c'est-à-dire que je l'ai dit, quand on envoie un paiement à quelqu'un, t'es pas obligé d'être directement connecté à lui par un canal. Tu peux emprunter les canaux d'autres nœuds et donc arriver jusqu'au canal, enfin au nœud pardon en question. Mais actuellement le routage, donc la manière de choisir la route, et donc par route j'entends les différents canaux que tu vas employer. Qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le routage en oignon. Et donc dans ce cadre-là, ça veut dire que c'est le nœud qui fait le paiement, donc le nœud du payeur, qui doit calculer toute la route. Donc par exemple, si ça passe par un nœud A, un nœud B, un nœud C, il doit calculer que ça va passer par le nœud A, puis le nœud B, puis le nœud C. Et ensuite, il envoie tout ça sur le réseau. Et les nœuds intermédiaires, ils savent pas du tout qui est la destination finale. Ils savent juste qui vient de leur envoyer le paquet et à qui ils doivent l'envoyer ensuite. Donc c'est un intérêt pour des questions de privacy notamment, même si ça aussi c'est peut-être une idée un peu reçue, mais la privacy sur Lightning est pas, elle est pas mal, mais il faut pas y trop y, enfin il faut pas s'attendre à non plus à ce que ce soit un truc parfait quoi. Ça serait une erreur de considérer qu'elle est parfaite. Mais donc par contre, donc l'avantage c'est la privacy, mais le gros défaut c'est que du coup le nœud en question, le nœud qui émet le paiement, il doit calculer la route. Et ce qu'on a dit aussi c'est que les transactions que tu fais sur un canal, elles sont privées. C'est tout l'intérêt, c'est que plutôt que de faire comme sur Bitcoin où quand on fait une transaction, on l'annonce à tout le monde, Ben là, quand on fait une transaction sur Lightning au sein d'un canal, il n'y a que les deux membres du canal qui sont au courant. Mais donc, quand tu essayes de faire passer un paiement par des canaux qui ne sont pas les tiens, tu ne sais pas où est l'argent, comment il est réparti dans le canal. Tu sais juste qu'au début, quand le canal a été ouvert, la personne qui l'a ouvert a déposé 20 euros. Mais maintenant, ces 20 euros, tu ne sais pas, ils sont peut-être complètement de l'autre côté. Il y en a peut-être 8 d'un côté et 12 de l'autre. Mais toi, pour faire ton paiement, tu as besoin qu'il y en ait un certain nombre d'un certain côté. Parce que c'est leur déplacement d'un côté à l'autre qui va faire que ton paiement est routé dans le réseau. Et cette information, tu l'as pas. Et donc, on passe d'un calcul de route où on aimerait bien qu'il soit déterministe, parce que ça, on sait faire et c'est facile, à un truc qui est probabiliste, au sens où ben, tu estimes qu'il y a des chances quand même que sur ce canal-là, il y ait suffisamment de fonds du bon côté pour que le paiement puisse arriver à l'autre bout. Et donc, les algorithmes qui calculent les routes sur le réseau, ils font ça un peu de manière voilà, probabiliste. Et ensuite, ils font une espèce de classement des meilleures routes. Et puis, ils essayent la première et puis voient si ça passe ou pas. Et si ça passe pas, ils essayent la deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit ça passe, soit ça rate. Et donc, ça, c'est quand même pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Et le risque, c'est que du coup, ça amène à une relative centralisation des nœuds. Parce que donc on a un double problème. On a le problème qu'il faut que le nœud qui émet le paiement, il connaisse très bien le réseau pour pouvoir avoir connaissance de suffisamment de canaux pour trouver une route. Et ensuite, il faut que les routes dont il a connaissance, elles marchent en pratique. Et donc on peut être très vite tenté d'aller se connecter à des gros nœuds qui forment du coup des espèces de hubs sur Lightning parce qu'on sait qu'avec eux, ça va passer. Et c'est une tendance qu'on observe un peu déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai. Et avec tous les problèmes que ça amène, parce que notamment, donc, il y a eu un papier, une recherche qui pointait du doigt le fait que donc, des chercheurs, donc après c'est un modèle, donc on ne sait pas trop comment ça se passerait en conditions réelles, mais il y a quand même, enfin, on peut quand même y accorder un certain crédit, qui ont trouvé qu'ils pouvaient, en créant seulement une vingtaine de canaux, réussir à paralyser pendant 1 heure 80% du réseau Lightning, simplement en se mettant en bon endroit, avec des canaux assez bien alimenté en fonds et avec des frais très bas, de sorte à ce que tous les paiements qui doivent aller d'un côté à l'autre du réseau, ils passent par eux, et simplement eux en arrêtant de les transférer. Et donc après, au bout d'un moment, il y a un délai d'1 heure, au bout d'un moment où on considère que le paiement a raté, on réessaye en passant ailleurs, mais du coup, pendant 1 heure, ils pourraient paralyser le réseau. Donc il y a ce gros problème de centralisation qui est lié au moins en partie à la manière dont le routage est fait sur Lightning. Alors il y a des alternatives qui sont explorées. Comme le end routing, par exemple, qui sont d'autres moyens de router les paiements dans le réseau et qui permettent de régler ou au moins d'atténuer ce genre de problème. Ensuite, un autre problème qui, je pense, est peut-être un, enfin, qui est, enfin, qui a, en tout cas, qui est très différent, c'est que finalement, sur Lightning, c'est que des promesses qu'on s'échange. Donc, des promesses avec des forts engagements. Avec ces fameuses transactions d'engagement là dont j'ai parlé, donc des transactions Bitcoin non publiées, mais in fine, ça reste que des promesses. Et si tu veux récupérer tes fonds, on l'a vu, il faut que tu fasses une transaction Bitcoin pour fermer le canal. Et si Lightning devenait vraiment beaucoup utilisé, ben, il y a un risque que la chaîne soit trop encombrée et donc tu n'arrives pas à publier ta transaction de fermeture. Et donc à ce moment-là, finalement, tu es juste avec des promesses. Que l'autre te doit tant de Bitcoin, mais tu n'arrives pas à la concrétiser sur Bitcoin en layer 1. Alors après, comment dire, tu peux toujours rester sur Lightning, en fait, si tu veux. Et puis d'autre part, il y a des moyens de contrer ça en faisant des agrégations de fermeture, par exemple, donc en fermant plusieurs canaux d'un coup en une seule transaction, ce genre de choses. J'ai pas encore beaucoup creusé ce genre de truc, mais je suis relativement confiant dans le fait que voilà, ça posera pas trop de problèmes. Puis ensuite, voilà, si vraiment ça devient un problème parce que Lightning est tellement utilisé, etc. Donc encore une fois, on n'y est pas. Il faudrait, on parle de, voilà, de, je pense, de millions d'utilisateurs. Bah à ce moment-là, déjà, je pense qu'on aura trouvé des solutions entre-temps, mais éventuellement une solution, ça serait tout simplement d'augmenter la taille des blocs. Alors, je vais peut-être me faire conspuer dans les commentaires et traiter de bicacheur, ce que je ne suis pas du tout. Mais comment dire il y a peut-être des cas où une augmentation de la taille des blocs sera pertinente. Donc il faudra réévaluer la situation dans 20 ans éventuellement, peut-être. Peut-être que dans 20 ans, ça sera nécessaire. Je pense pas. Je pense qu'il y aura d'autres méthodes avant l'augmentation de taille des blocs, mais ça reste quelque chose d'envisageable, quoi, je veux dire, du point de vue technique.
Ok. Peut-être un point aussi qui est intéressant à ajouter, je pense, ce que tu décris, c'est effectivement des problèmes au cas où le réseau est rendu à avoir des millions d'utilisateurs. Mais la pratique, c'est que jamais le réseau passait de 10 000 à 10 millions sans que la sécurité et ce genre de problème soient adressés. Donc ça va être comme être un frein dans l'évolution. Et donc on ne sera probablement pas dans des situations à 10 millions d'utilisateurs avec ces problèmes. Ça me semblerait peu. Le chemin ne se fait pas en fait.
Ouais.
Si tu sais que tu as des risques, tu ne vas pas te mettre là-dessus. Donc tu vas attendre que les risques soient adressés. Donc je pense que ça va évoluer de pair avec l'évolution du nombre de personnes, quoi. Donc là, le fait qu'il y ait 10 000 usagers, par exemple, avec des problèmes, bah, ça fait que ces 10 000 usagers-là se focus sur résoudre ces problèmes-là avant de pouvoir passer à 50 000, par exemple.
Oui, tout à fait. Non, bon, je suis plus inquiet, par exemple, par rapport au risque de centralisation, parce que actuellement, on manque un peu d'incentive pour les nœuds qui comptent sur Lightning pour recevoir des paiements, par exemple, ou pour en envoyer. C'est quand même beaucoup plus facile de se connecter à un gros nœud, un hub centralisé, enfin un hub qui du coup devient un point de centralisation du réseau. Et finalement, t'es pas incité à ne pas le faire. La seule incitation à ne pas le faire, c'est de considérer que tu t'exposes à un risque si ce nœud finalement décide d'arrêter de router tes paiements. Mais bon, c'est peut-être quelque chose auquel les bitcoiners sont assez, enfin dont ils sont assez conscients, parce que finalement quand on va sur Bitcoin, c'est au moins en partie parce que on a conscience que c'est l'un des problèmes et des risques associés à la finance traditionnelle avec les banques. Mais le risque, c'est qu'on effectivement ce risque ne soit pas assez perçu et que donc finalement il y a des gens qui répètent ces mêmes problèmes, ces mêmes erreurs qu'on a fait en confiant trop largement le contrôle sur l'argent aux banques, et ben, qu'on le répète sur les nœuds Lightning. Mais ça, il y a des solutions aussi techniques en fait, il n'y a pas que l'utilisateur, donc il y a des trucs comme Trampoline par exemple qui permettent de soulager un peu les besoins sur les nœuds. Normaux, on va dire, du réseau, de connaître très bien toute la route et pour envoyer les paiements. Donc bref, hein, il y a plein de manières de résoudre les problèmes. Il faut être conscient des problèmes, il ne faut pas les mettre sous le tapis, ça très clairement. Mais je suis pas du tout défaitiste, en tout cas.
Ok, super, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon overview. Donc, on a commencé par qu'est-ce que c'était un canal. Donc, c'est comme une espèce de petite boîte dans laquelle on met l'argent. Comment ça s'ouvre? Quels sont les problèmes avec? Comment on peut gérer les frais? Comment on peut casser le canal pour revenir sur le réseau? On a parlé de routage, donc de canaux en canaux pour envoyer de l'argent d'une personne à une autre personne en passant par l'intermédiaire. On a parlé éventuellement vulnérabilité du réseau, donc avec les risques de centralisation. Avec le risque de ne pas pouvoir revenir sur le réseau principal si les frais sont trop élevés. Fanny, où est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui serait encore un peu plus curieux d'aller s'informer? Je sais que ta chaîne YouTube, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que toi-même tu as consommées pour en apprendre plus sur le sujet?
Oui, alors il y a quelques ressources en français. Bon, malheureusement, je les trouve, enfin, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Après, j'en redécouvre de temps en temps. Donc, il y a aussi une question d'accès aux ressources et du fait de savoir les trouver. Mais du coup, en français, il y a quelques articles sur le journal du coin qui expliquent bien comment ça marche. Enfin, c'est là que j'ai trouvé les articles français dont je trouve qu'ils expliquent ça le mieux. Notamment, il y avait un article de Grégory Guittard qui justement détaillait un biais d'attaque sur le réseau Lightning. Bah, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, là, avec les mecs qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient parasiter le réseau, mais où il prend le temps d'expliquer un peu comment fonctionne Lightning. Donc ça peut être une bonne introduction. Il y a aussi Yorick de Monbine qui avait écrit un papier sur le fonctionnement de Lightning, qui est bien aussi pour une introduction à ce que c'est Lightning. Voilà, il y a On-Chain Report de Guillaume Chanu qui avait fait un petit truc aussi. J'ai mis pas mal de liens dans la description de ma première vidéo. Si tu veux aller les
Ok.
chercher, ils sont là. Et sinon, après, il y a quand même beaucoup de ressources, et notamment ce que j'ai utilisé moi pour faire ma série et pour mieux comprendre le fonctionnement plutôt que les fonctionnalités. Mais elles sont essentiellement en anglais. Donc, d'une part, il y a le livre qu'est en train d'écrire Andreas Antonopoulos qui s'appelle Mastering Lightning, qui est en cours d'écriture, mais donc. Comme c'est complètement ouvert, donc le texte est sur GitHub en fait. Donc si vous allez sur github.com/antonop/lnbook, non pardon, github.com/lnbook, vous allez trouver le livre. Et donc c'est assez utile, c'est un peu ma bible pour écrire la série. Il y a pas mal d'infos et c'est déjà comment dire, un peu vulgarisé, comment on va dire le travail un peu mâché. Mais ça reste de bon niveau, quoi, de très bon niveau même, donc voilà, assez technique. Sinon, il y a le standard, enfin, Lightning, c'est un protocole avec une spécification. Donc, une spécification, c'est des règles que les gens qui veulent écrire leur propre implémentation du protocole doivent respecter. Et donc, la spécification Lightning, elle est disponible aussi sur GitHub et elle détaille en plusieurs points le fonctionnement du réseau, en fait. Donc, ça, je l'ai beaucoup utilisé aussi pour expliquer. Mais donc, là, on est encore une fois vraiment dans le fonctionnement technique. Niveau chaîne YouTube, il y a celle de René Picard. Qui aussi il est co-auteur avec Andreas Antonopoulos sur le livre Mastering Lightning, et il a aussi écrit des papiers sur Hélène, donc il n'est pas mauvais, on va dire, pour le dire sobrement. Et donc il a une chaîne YouTube qui est vachement bien aussi, en anglais, et qui est, enfin moi je trouve qu'il fait un bon boulot de vulgarisation aussi. Enfin, je veux dire, ses vidéos sont assez agréables à regarder. Est-ce que j'oublie? Ouais, voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel de mes ressources. Après, il y a les médiums, il y a la page médium de A5. Donc A5, c'est l'entreprise qui fait l'implémentation de Lightning Éclair, qui fait aussi le wallet Phoenix, qui est pas mal, leur médium, pour expliquer certains points. Voilà, mais leur médium est aussi en anglais. Et puis sinon, c'est vraiment en me promenant un peu partout sur Internet. Il y a le Bitcoin Stack Exchange aussi, où... Donc c'est comme Stack Overflow, mais c'est pour Bitcoin, où il y a régulièrement des questions sur Lightning et régulièrement il y a de très bonnes réponses, notamment de René Picard, qui sont données. Mais donc voilà, il y a vraiment plein de sources un peu différentes. Il y a aussi, j'y pense, il y a Lightning Wiki, il y a le blog de Lightning Labs, enfin il y a pas mal de sources, mais elles sont peut-être un peu éparpillées.
Ok, bah je mettrai un maximum de liens dans la description de l'épisode.
Ouais, super.
Et puis toi, où est-ce qu'on peut retrouver ton contenu?
Du coup, mon contenu, il est trouvable essentiellement à deux endroits. Donc, j'ai fait cette série effectivement qui s'appelle Comprendre le Lightning Network. Donc, elle est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et sinon, il y a mon Twitter où j'écris de temps en temps. Enfin, en tout cas, je partage tout mon travail sur Twitter. Et donc, mon travail, c'est soit sur ma chaîne YouTube, soit aussi des articles que j'écris. Pour le journal du Coin ou pour Unchained Report. Voilà, donc là, ce n'est pas forcément des articles relatifs à Lightning. Donc j'ai écrit un article sur Lightning sur Unchained Report, et sinon sur le journal du Coin, j'ai déjà écrit des articles, mais pas relatifs à Lightning. Mais voilà, c'est là où on peut retrouver mon travail.
Cool. Petite dernière question. Tu m'as dit que tu cherchais éventuellement à travailler en Bitcoin plus tard. Est-ce que tu sais vers quel sujet tu aimerais t'orienter dans l'industrie du Bitcoin?
Pas exactement, ouais, je suis pas complètement fermé. Alors forcément, Lightning, ça m'intéresse beaucoup. Je suis à fond, enfin, je suis vachement dedans et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus. Le minage m'intéresse beaucoup aussi, ça c'est parce que enfin, c'est le profil un peu ingénieur, on va dire, avec une bonne composante en physique, en énergie, etc. Donc le mining qui réunit Bitcoin et énergie, c'est vachement intéressant. Il y a aussi la question de la sécurisation et de la custodie des bitcoins, notamment par les entreprises, qui, je pense, va se poser de manière de plus en plus importante dans les années à venir. Bitcoin et privacy, ça m'intéresse aussi. Enfin, je suis assez ouvert. Donc voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas la problématique parce que je suis encore dans mes études, j'ai déjà un stage, etc. Mais pour plus tard, effectivement, ouais, ça m'intéresserait d'avoir un CDI Bitcoin. Faut pas croire que c'est impossible, je pense. J'ai eu quelques touches déjà, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, on a de belles entreprises en France. Je pense à A5, je pense à Stackinsat, je pense à Wallit, à Paymium, etc. Et peut-être d'autres que j'oublie, Ledger aussi éventuellement, etc. Donc voilà, effectivement, on va voir. Je reste ouvert à l'écoute, mais j'ai pas de. Moi déjà, travailler dans Bitcoin, ça serait le rêve.
C'est déjà suffisant. Ok. Bah, je te souhaite beaucoup de succès dans cette direction-là. Est-ce que tu as un dernier truc que tu voudrais ajouter pour l'auditeur? Un mot que tu dirais, tiens, bah, ça c'est un truc important à savoir sur, je sais pas, Lightning ou Bitcoin?
Odell.
C'est bon, c'est noté. Ok, bah, merci beaucoup, Fanny. C'était
Merci beaucoup
super
à
bon
toi,
projet.
c'était très sympa,
J'ai
merci.
beaucoup appris. Merci beaucoup. Ciao.